Alors bonjour à tout le monde. Bon, c'est vrai qu'on est beaucoup moins nombreux ce matin. Hein. Alors j'espère que les raisons ne sont pas des raisons de santé. Je crois qu'il y a les vacances scolaires, non, aussi. Voilà. En tout cas, Montserrat n'est pas là. C'est pas la neige qui l'a retenue, quoique elle n'aime pas la neige, mais elle est malade. Je crois que c'est une trachéite, hein, c'est ça qui est là, donc elle ne doit pas sortir pendant quelques jours. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Donc je vais commencer par la mauvaise nouvelle, c'est que l'équipe de France de rugby a perdu hier contre l'Angleterre. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est que nous rencontrons l'Écosse au mois de mars. Bon, j'espère qu'il n'y a pas des personnes d'origine écossaise dans la pièce. Je sais, je prends des risques, mais il faut vivre en prenant des risques. Hein. De toute façon, je jetterai mon portable, le cas échéant. Alors, un peu plus sérieusement, après ce petit moment de détente, nous étions il y a une huitaine de jours à peu près avec Dany dans notre famille, dans la région toulousaine, et bien sûr, les membres responsables de l'Église nous ont prié de vous transmettre toutes les salutations fraternelles donc de l'église de la rue Le Gendre à Toulouse, donc recevez toutes ces salutations. Alors pour ceux qui ont leur Bible, je vous invite à les ouvrir dans une lecture dans le livre de la Genèse. Alors la lecture est un peu longue, j'ai pas su bien la raccourcir, alors on va la lire quand même. Donc Genèse, à partir dans le chapitre 11, à partir du verset 27, et on ira jusqu'au verset 18 du chapitre 13. Donc je répète, Genèse 11, à partir du verset 27 jusqu'au 13, verset 18. Voici la postérité de Térakh. Térakh engendra Abraham, Nakhor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Térakh son père au pays de sa naissance à Ur en Chaldée. Abraham et Nakhor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai, et le nom de la femme de Nakhor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Jiska. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Térakh prit Abraham son fils et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Sarai sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térakh furent de 205 ans et Térakh mourut à Charan. L'Éternel dit à Abraham, « Va de ton pays, de ta patrie, certaines versions diront ta famille, plus précisément ta parenté, et de la maison de ton père. » Dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit sa femme Sarai, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est ta femme, » et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi tu dis, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je pris pour femme. Maintenant, voici, prends ta femme et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs, des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel. Comme le pays d'Égypte, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un et l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les vallées de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. » Lève-toi, parcours le pays dans ta longueur, dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Voilà donc une histoire qui est courue, parcourue, bien connue. Et il faudrait certainement plusieurs études et plusieurs messages pour essayer d'être le plus complet possible pour traiter ce sujet de l'appel d'Abraham et de l'alliance que Dieu fait avec lui et des bénéfices de cette alliance pour nous aujourd'hui. Mais pour ce matin, nous considérerons seulement l'appel, c'est-à-dire au tout début, sous quelques aspects, par exemple comme les circonstances de l'appel, la manière de répondre à cet appel, en essayant de retirer de ces aspects quelques enseignements ou quelques exhortations pour nous. Alors, ces derniers mois, nous avons eu, les pré-ados et moi, un échange sur des questions de fond qu'ils se posaient et qu'ils posaient aux anciens. Et les autres anciens ont aussi des rendez-vous avec eux. Hein. Alors, la fin du monde, voilà les questions. La fin du monde. Comment cela va se passer? Qu'est-ce qu'il y avait avant la fondation du monde? Ou bien, qui a créé Dieu? Etc, etc. Alors, ce que d'emblée nous nous sommes dit quand nous nous sommes rencontrés, c'est qu'il fallait nous poser deux questions en préalable. Est-ce que je suis prêt à croire? Et la deuxième question, est-ce que je suis prêt d'accepter de ne pas avoir toutes les réponses à mes interrogations.
Alors, en d'autres termes, si on voulait résumer ces deux questions, ce serait de dire, suis-je prêt, on revient à l'introduction de ce matin, suis-je prêt à faire confiance à Dieu? Alors, nous nous apercevons, pour ce qui concerne Abraham, qu'il était habité d'une disposition de cœur, prêt à croire, prêt à faire confiance en Dieu. Et pour autant, les conditions de vie qui étaient les siennes au moment de l'appel de Dieu, c'est-à-dire son environnement familial, les pratiques dans le pays, rien de cela ne le prédisposait à répondre ou à entendre même l'appel de Dieu. Alors, quelques mots sur le personnage d'Abraham. Alors, le chapitre 12 de la Genèse, en plus d'introduire donc cette nouvelle alliance, celle de Dieu avec Abraham, ce chapitre 12 nous fait découvrir un homme. Abraham. Il semble que presque un quart du livre de la Genèse fait référence à Abraham. Et que dans l'Ancien Testament, il soit à peu près fait plus de 40 fois référence à lui. Et le Nouveau Testament n'est pas en retrait non plus, hein. Il souligne également à de nombreuses fois la vie et le caractère d'Abraham. Par exemple, dans Romains au chapitre 4, Paul a choisi Abraham comme le meilleur exemple qui soit pour démontrer que l'homme est justifié par la foi, et cela sans ses œuvres, sans ses actions personnelles. Dans Jacques, chapitre 2, les versets 21 à 23, il est fait allusion à Abraham comme un homme qui démontre sa foi aux autres par ses actions. Et puis dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, les versets 8 à 19, il nous est indiqué qu'Abraham était l'illustration, ou si vous aimez mieux, le modèle d'un homme qui vivait par sa foi. Donc on en vient maintenant aux circonstances de l'appel d'Abraham. Alors qui peut être appelé? Alors ce que les chrétiens d'aujourd'hui retiennent généralement de ces héros de la Bible, dont fait partie Abraham, c'est qu'ils sont des géants. Alors pas sur le plan de la taille, hein, mais des géants sur le plan de la morale, des géants sur le plan de l'éthique, des géants sur le plan du comportement, des géants sur le plan de la foi. Des hommes qui semblent avoir des caractères non seulement avec de bonnes qualités, mais aussi avec une discipline exemplaire et une foi à toute épreuve. Mais les héros de la Bible, ces hommes donc à la fois exemplaires, sont des hommes en tout point semblables à nous. De la même nature que nous, nous dit Jacques au chapitre 5 et au verset 17. C'est-à-dire des hommes et des femmes comment? Des hommes et des femmes avec leur fragilité. Des hommes et des femmes avec leur imperfection. Tout comme nous. Je peux m'identifier à des hommes et des femmes comme cela. Ce qui les concerne, me concerne. Et la patience dont Dieu a fait preuve envers eux, eh bien cette même patience, il l'a en réserve également pour moi. Ce qui signifie que je peux trouver dans leur exemple de vie de l'espoir pour une personne comme moi. Alors certains d'entre nous pourraient penser, oui mais Abraham faisait partie d'une famille extrêmement religieuse, Hein. Il a été élevé dans une certaine croyance, habitué à la croyance en Dieu. Non, non, pas du tout. C'est pas du tout ça. Et voici ce que nous apprend le livre de Josué au chapitre 24 et au verset 2. Il nous donne quelques détails utiles sur la vie entre guillemets religieuse de Térak, le père d'Abraham. Josué dit alors à tout le peuple, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a bien longtemps, vos ancêtres, en particulier Térak, le père d'Abraham et de Nahor, ont habité de l'autre côté de l'Euphrate et ils rendaient un culte à d'autres dieux. Térak, père d'Abraham, était un idolâtre. Tout comme le peuple dont il faisait partie. Et rien ne prédisposait Abraham à se donner à un seul Dieu. Abraham n'a donc pas copié la croyance de son père. Mais il a cru au Dieu unique et a répondu favorablement à son appel. L'appel que Dieu nous fait n'est pas un appel à copier. Ni la foi, ni les bonnes manières d'être ou de faire de nos parents, si bonnes soient-elles. Mais l'appel de Dieu est un appel à croire en lui. Comme étant le seul Dieu unique et véritable. L'appel que Dieu nous fait n'est pas un appel à entrer dans une religion ou une idéologie. Mais l'appel de Dieu est un appel à le suivre, lui. Alors Abraham a été appelé à quitter son pays. Les historiens ont mis en doute l'existence de Ur qui était mentionné donc dans la Bible, en rapport avec Abraham. Cependant, et vous pouvez le vérifier, donc l'appel des archéologues a prouvé que la Bible était véridique. La ville que Dieu a ordonné à Abraham de quitter était une ville magnifique. Et la maison qu'il a laissée l'était sans doute pas moins. Selon les fouilles qui ont été effectuées dans les années 1930 à peu près, il ressort que la classe sociale moyenne avait des maisons de 10 pièces. Et selon les théologiens et les historiens, Abraham appartenait à la haute classe. Cela signifie que quand Abraham a été appelé à quitter son pays, il a été appelé à quitter une vie confortable. Pourquoi ? Pour vivre une vie de nomade. Troquer les belles maisons pour vivre sous les tentes. Alors, un bon nombre de personnes que l'on pourrait considérer comme sensées, c'est-à-dire la plupart d'entre nous, n'est-ce pas ce matin, hein, auraient réfléchi à deux fois avant de quitter de telles conditions de vie. Ce qu'il me semble que nous devons retenir à ce stade, c'est qu'Abraham a obéi. Et il a obéi immédiatement. Les textes lus ne font état d'aucune discussion ou objection d'Abraham, comme par exemple Moïse a pu le faire en son temps. L'âge d'Abraham non plus n'est pas un critère favorable pour quitter Ur, puisqu'il nous est dit que quand il entre dans le pays de Canaan, il a 75 ans, et à ces âges-là, on est plutôt
fin de nos jours à penser à la retraite, hein, à la vie confortable, plutôt que de partir pour un lieu lointain. Alors tout cela devrait nous rappeler les objections ou les obstacles qui auraient pu forcer Abraham à ne pas obéir. Abraham a quitté son pays, non pas parce que c'était la chose la plus facile à faire, mais il l'a fait par foi et par obéissance au Dieu unique. Quelle est ma liste d'obstacles ou d'objections qui m'empêchent de répondre à l'appel de Dieu? Que suis-je prêt ou prête à quitter pour suivre le Dieu vivant et vrai? Mais Abraham est également appelé à quitter un lieu d'idolâtrie. Entre autres dieux, le dieu qui était vénéré, c'était le dieu Nanna, le dieu de la lune. Il était vénéré en Ur, en Chaldée et dans toute la région. À quoi est assimilé le fait de vénérer des idoles, fussent-elles des créations de Dieu? J'ai trouvé un texte dans le livre de Job, au chapitre 31 et les versets 26 à 28, que je vous lis. C'est Job qui s'exprime. « Si j'ai regardé le soleil quand il brillait, la lune quand elle s'avançait, majestueuse, si mon cœur s'est laissé séduire en secret, j'aurais renié le Dieu des cieux. Ce qui me retient, ce qui m'empêche, qui prend la place de Dieu, c'est renier le Dieu des cieux. » Alors le nom d'Abraham signifie « Père élevé ». Alors, je ne sais pas, mais quel nom peut être mal approprié? Comment peut-il être nommé « Père élevé » alors que sa femme ne peut pas lui donner d'enfant? Nous avons lu que Sarah était stérile. Donc, cela signifie que ce Dieu Nana, Dieu de la fécondité, et donc, comme tous les autres dieux, petit dieu avec un petit dé et idole, il est sans puissance, il est sans force, sans effet. Nous lisons plus loin, toujours dans la Genèse, que le Dieu unique et véritable va, lui l'Éternel, donner un fils à Abraham et lui promettre qu'il rendra sa postérité comme la poussière de la terre. On l'a lu, Genèse 13, 16, qu'il sera le père d'une grande nation, d'une multitude, nous est-il précisé dans Genèse 17, au verset 4. Et pour acter de son sceau divin cette promesse, Dieu change le nom d'Abraham. Abraham étant en sorte le fait de souligner l'incapacité du Dieu à Nana. Il change donc le nom d'Abraham en Abraham, père d'une multitude. Et c'est donc son fils Isaac, né de Sarai, qui introduira la réalisation de la promesse de Dieu à donner à Abraham une postérité. L'Éternel Dieu est celui qui appelle, celui qui promet et celui qui tient ses promesses. Mais comment Abraham a-t-il répondu à cet appel? Il a obéi, on l'a vu, il a obéi immédiatement, on l'a vu. Mais l'appel d'Abraham enregistré dans Genèse 12 dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je te montrerai. Alors, dans un sens, l'ordre de Dieu à Abraham il est clair. Dieu a indiqué de manière précise et sans aucune équivoque ce qu'Abraham devait laisser derrière lui. Il doit laisser son pays, il doit laisser sa parenté, il doit laisser la maison de son père. Dieu allait construire une nouvelle nation, pas simplement modifier une nation qui existait déjà. Ce qui appartenait de près ou de loin à la culture, à la religion ou à la philosophie du peuple d'Ur ne devait et ne pouvait pas faire partie du plan de Dieu pour son peuple. Or, nous découvrons dans notre lecture que nous avons faite, chapitre 11 et verset 31, que Térakh prit Abraham et sortit d'Ur ensemble. Térakh part avec Abraham. Non seulement l'appel n'est pas adressé à Térakh, mais nous lisons également au chapitre 4, au verset 4 du chapitre 12, qu'Abraham prend Lot avec lui. Or Dieu avait dit, quitte ta parenté. Et Lot était de la parenté d'Abraham. Quitte la maison de ton père. Et Térakh part également. Quelles indications pour nous ce matin que cette manière d'obéir d'Abraham. Comme nous l'avons vu, il a obéi. Il a obéi immédiatement, mais il a obéi incomplètement. Cela me montre que nous pouvons obéir et en même temps désobéir. De quelle manière vais-je répondre à l'appel de Dieu? Vais-je obéir? Vais-je obéir immédiatement? Vais-je obéir complètement? Alors avant d'aller plus loin, il est peut-être temps de passer un court instant de méditation. Et je vous propose que l'on puisse maintenant courber nos têtes. Courber nos têtes et fermer nos yeux. Et pendant que nous méditons, je vais formuler une requête à Dieu. Une requête que vous pouvez vous approprier, que vous pouvez répéter dans vos cœurs. Fermons les yeux. Seigneur, tu sais combien je voudrais obéir, mais combien il m'est difficile d'obéir complètement. Seigneur, regarde ce à quoi je tiens. Vois combien il m'est difficile de quitter telle ou telle chose, tel confort, telle pratique, telle habitude. Seigneur, aide-moi. Romps toi-même mes attaches. Favorise les circonstances pour que mes liens soient brisés. Arrache, Seigneur, tout ce qui est un frein à tes bénédictions pour moi. Seigneur, je veux te faire confiance. Amen. Alors l'appel de Dieu est un appel à quitter tout ce qui représente un frein à la bénédiction divine. Mais les appels de Dieu sont toujours assortis ou accompagnés de promesses. Et les promesses de Dieu sont des promesses tenues. Nous voyons que la promesse de Dieu à Abraham, initiée au verset 2 et 3 du chapitre 12, ne commence à prendre une forme plus précise ou plus complète qu'à partir du chapitre 13, verset 14 et d'autres chapitres plus loin. Il nous est dit donc, au verset 14 du chapitre 13, « Après que Lot se fut séparé de lui, et là il nous montre le pays qu'il lui donnerait. » Après que Lot se fut séparé de lui. À ce moment-là,
les deux actes de désobéissance, politiquement parlant d'obéissance incomplète, ont disparu. Les deux freins à la bénédiction et à la mise en œuvre des promesses de Dieu sont levés. Térak, le père d'Abraham, est mort à Charan. Et Abraham s'est séparé de Lot. Toutes les conditions de l'appel de Dieu sont remplies. Le voilà dans l'obéissance complète. Ayant quitté Ur, son pays, ayant quitté la maison de son père, Abraham est mort à Charan, Térak est mort à Charan, ayant quitté sa parenté, il vient de se séparer de Lot. Mais avant cela, que d'étapes difficiles, que de moments compliqués. Il se rendit même en Égypte, pays qui au départ ne faisait pas partie du voyage initial de l'appel de Dieu. Lorsqu'on veut prendre en main sa destinée, au lieu de faire confiance en Dieu, cela engendre forcément des situations compliquées, qui elles-mêmes engendrent des comportements douteux, voire des mensonges. Genèse 12, 10 et 19, que nous avons lu, là Abraham, par crainte pour sa vie, demande à Sarai de dire qu'elle est sa sœur. Mais Abraham ne ment pas, parce qu'on va un petit peu plus loin dans Genèse 20 et au verset 12. Ce moment-là nous montre bien qu'Abraham dit la vérité quand il dit que Sarah est sa sœur, ou plus exactement sa demi-sœur. Mais alors, où est le mensonge ? Le mensonge ne réside pas dans le fait de dire que Sarah est sa sœur, puisqu'elle l'est en vérité. Mais le mensonge réside dans le fait de faire croire que Sarai n'est pas sa femme. De la même manière que l'on peut obéir et en même temps désobéir, comme nous l'avons vu tout à l'heure, de la même manière nous pouvons mentir en disant la vérité. Induire l'autre dans l'erreur, lui dissimuler la vérité, c'est mentir. Combien d'errances dans nos vies qui résultent d'une désobéissance, d'une obéissance, pardon, incomplète. Combien de situations inextricables sont le résultat du refus de l'obéissance. Du refus de répondre à l'appel de Dieu à quitter ma vaine manière de vivre pour m'attacher au Dieu unique et vrai. Enfin, nous pouvons relever également une autre facette de l'appel de Dieu à Abraham. L'ordre de Dieu était aussi également relativement vague. Alors que ce qui devait être laissé derrière était clair comme de l'eau de roche, ce qui était devant lui était douloureusement dépourvu de détails. Pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai, Abraham ne savait même pas où il allait s'installer. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « Il est parti sans savoir où il allait ». La foi à laquelle nous sommes appelés n'est pas une foi en un plan tout tracé, à une prévision détaillée, mais une foi en une personne, notre Dieu et Sauveur. Ce qui importe pour Dieu, c'est que nous lui fassions pleinement confiance. Alors en conclusion, je voudrais revenir courtement sur l'appel initial, c'est un élément que nous avons pu voir dans une de nos études bibliques.
Et c'est vrai que dans Genèse 12:1, au moment de l'appel, il est dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en. Et c'est vrai que dans cette traduction française de l'hébreu ancien, il est difficile de percevoir dans cette expression va-t'en toute la pensée que contient l'appel de Dieu. Dans l'hébreu ancien, le terme traduit donc en français par va-t'en est ler lecha. Ler qui signifie va. Et lecha qui signifie pour toi. Alors c'est vrai que si ils avaient voulu traduire littéralement, ça aurait donné le mauvais français va pour toi. Et donc l'hébreu moderne qui a travaillé plus profondément cette traduction traduit toujours bien sûr l'air par va, mais l'écha dans ton intérêt. C'est-à-dire va dans ton intérêt. C'est dans ton intérêt d'obéir à l'Éternel. Et la suite de la vie d'Abraham a démontré l'intérêt qu'il avait d'obéir à Dieu. Alors si face à la parole de Dieu, face à son appel, à ses recommandations, face à ses invitations, j'y trouve parfois, peut-être souvent, des occasions de doute. Face à la parole de Dieu, je trouve des occasions de perplexité ou d'interrogation. Alors, je dois me souvenir, l'air l'éra. C'est bon pour toi. C'est dans ton intérêt personnel d'obéir à l'Éternel. Amen.